Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Au fil des pages, a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Édith Land. Bonjour Madame Land. Nous allons mener ensemble une conversation à trois, avec donc la complicité devant les micros de Canal Académie de sa directrice, Hélène Renard. Marie-Édith Land, vous avez publié « L'âge du champ d'Asie, d'Amérique et d'ailleurs ». C'était aux éditions du Cherche Midi en 1990. Avec une préface d'Edgar Faure, académicien dont nous aurons l'occasion de parler tout au long de cette émission, avec également en couverture un portrait de compression de César. Vous avez fondé en 1992 l'association Mythes et Mémoires du Monde, créée avec Georges Descrières, et donné dans ce cadre-là différents spectacles, manifestations dont vous allez pouvoir nous parler. En juillet 2009, vous avez ouvert le festival Paroles et Musique, c'était à l'abbaye de Rény, avec un spectacle intitulé « La mémoire espérance ». Et tout ce spectacle avait été accompagné par des improvisations au violon du musicien Régis Pasquier. Vous êtes, on peut le dire, à la lecture de toutes ces activités entreprises tout au long de ces années, une amoureuse des arts et des lettres. Vous avez d'ailleurs reçu cette décoration, Marie-Édith Land.
Tout à fait, je l'ai reçu des mains de Jacques Lang. J'ai les arts et lettres et le mérite agricole.
Alors, expliquez-nous justement ce mérite agricole.
Parce que si je suis poète, si j'ai été femme d'ambassadeur, si j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant 24 ans de sa vie le président Edgar Faure, dans ses recherches, dans ses études et tout simplement dans sa vie, dans sa merveilleuse, extraordinaire vie, j'ai également été exploitante agricole.
Alors, dans une région bien particulière
dans
de France.
Dans une région bien particulière de France, qui est tout à fait le haut de la Bourgogne, dans un endroit qui s'appelle la Terre Pleine, où il y a une terre tout à fait spéciale, avec une terre de liasse extraordinaire, très grasse, qui vous permet de nourrir tout à fait différemment les charolais, avec des buts témoins, voilà, tout ça, je vous passerai. Et les charolais deviennent absolument exceptionnels. Donc, avec certains de mes amis éleveurs, nous avons fait un syndicat de défense du bœuf de terre pleine qui est en démarche d'AOC. Voilà.
Alors, c'est donc une première démarche artistique, le bœuf de terre pleine. Mais comment passe-t-on d'une activité agricole à une activité artistique ?
On n'y passe pas. Les deux marchent tout à fait ensemble. Et même, je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis aperçue qu'au moment où je préparais mes concours, parce que les concours, c'est quand même toute une énorme préparation, et il faut éloigner les petits veaux de leur mère pour les nourrir spécialement dans des enclos fermés, pour qu'il n'y ait pas de soleil, ils soient à l'ombre, ils puissent avoir une nourriture spéciale. Donc, il faut les séparer. Et pendant ce temps-là, quand ils sont séparés, ils sont libres, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas attachés. Et vous devez leur apprendre à les flatter, vous les laisser les caresser parce qu'ils vont automatiquement supporter le harnais pour le concours et donc il faut qu'ils s'habituent totalement à votre présence. Alors, croyez-moi, un petit veau que vous commencez comme ça à nourrir, à sélectionner, il a déjà 400 kilos. Il faut que vous soyez dans un calme total. Et je me suis aperçue que cette concentration était excellente également pour la création poétique. Parce que c'est la même chose. Pour percevoir l'harmonie du monde, les drames, la continuité, les sons, les odeurs, percevoir le monde, il faut que vous soyez en même concentration, ouverture, vous êtes dirigé vers les choses, les gens, comme vous allez vous diriger vers les animaux pour leur apprendre à venir à vous et avoir confiance en vous.
Marie-Édith Land, est-ce que cette expérience d'éleveur vous a inspiré un poème particulier dans le livre dont nous parlons aujourd'hui
oui,
et que nous voulons
fait.
Vous présenter
vous avez un poème sur les éleveurs, un long poème sur les éleveurs qui s'appelle « Les enfants de saison ».
Les enfants voilà, de saison, enfants donc, de dans saison. Le livre « Au voilà. pas de gravité et dans l'intimité du ciel », poème, c'est un livre donc de Marie-Édith Land, et il est préfacé celui-ci par Paul Lombard, et il est paru aux éditions Michel de Maulle.
Marie-Édith Land, parlez-nous de votre entrée en poésie.
Je crois que je suis née poète. Vous savez, on est comme ça, voilà, il n'y a rien à faire.
Vous écriviez des poèmes étant enfant, vous écriviez des poèmes.
J'ai commencé dès que j'ai retrouvé des contes comme ça et des poèmes que j'écris toute petite, tout en vrai, que j'illustrais aussi à cette époque-là. Je crois vraiment, oui, que la poésie m'a habitée dès l'enfance. Et puis, j'ai eu la chance de naître et de vivre dans le sud-ouest de la France, dans un milieu extrêmement artiste et très cultivé. Mon grand-père, par exemple, avait une culture grecque absolument extraordinaire. Il parlait d'ailleurs le grec, il écrivait, le latin, bien sûr. Il correspondait même avec un ami japonais en latin. Et surtout, il avait une passion pour la Grèce, pour les poètes, pour les classiques, pour les drames. Et donc, depuis mon plus jeune âge, il m'a fait entrer dans cette poésie extraordinaire, où vous trouvez déjà les personnages, mais vous les retrouvez, ce sont des personnages, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous retrouvez des personnages que vous rencontrez encore tous les jours, avec exactement les mêmes sentiments, les mêmes drames, les mêmes violences, même dernièrement dans les médias, vous avez des drames qui sont tout à fait des drames à la hauteur du drame grec. Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là extraordinaire. Et une deuxième chance également, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de distraction autre l'été que de se distraire entre soi. Et nous étions une grande famille dans une vieille maison qui appartenait à notre famille depuis le 16e siècle, avec une immense pièce. Tout le monde jouait du piano, chantait, jouait du violon, dansait, etc. Et comme on se réunissait tous avec les voisins, tous les mois d'août évidemment, eh bien au lieu de s'ennuyer, de jouer au bridge, de faire des choses comme ça, il n'y avait pas de télévision, je le répète, on montait des spectacles. Et chacun, il sortait de sa poésie, de sa chanson, de sa danse, voilà. Donc j'ai vécu comme cela, dans ce milieu absolument extraordinaire, qui chantait, qui créait des lectures, des spectacles, l'été seulement. Et tout l'hiver, avec mon grand-père, j'apprenais ce qui était la magie de la poésie grecque, du drame grec, voilà.
Et quand avez-vous publié votre premier livre de poésie ?
Alors, je n'ai pas publié très tôt. J'ai publié parce que la vie m'a emporté, et puis ce n'est pas facile de publier. Ensuite, j'avais une vie extrêmement occupée. D'abord, j'ai eu 3 enfants, et ensuite, j'ai été la femme de mon mari, quand même, qui a eu des postes, puisqu'il était diplomate, des postes considérables, notamment à New York. Il a été ministre plénipotentiaire, consul général de France à New York, où là, d'ailleurs, je me suis offert mon propre théâtre dans l'immeuble merveilleux que l'État français possède sur la 5e avenue. Et je faisais jouer leurs jours de relâche, tous les grands artistes qui passaient, les chanteurs, les comédiens, et je donnais des fêtes absolument merveilleuses.
Alors, concernant cet ouvrage qui vient de paraître...
Oui, c'est le 3e.
C'est le 3e. Voilà. Donc, votre éditeur nous indique au pas de gravité, dans ce recueil de poésie, Marie-Edith Land entraîne ses lecteurs au travers des lieux mythiques, des cultures, des transes du monde... et par une quête humaine du plus humble paysan aux grandes figures politiques et morales, de la Shoah à l'absolu de l'amour, elle leur propose d'entrer dans l'intimité du ciel.
Et la quête humaine, c'est joli, la quête humaine. Oui, ça vous a inspiré?
Exactement.
Elle commence humaine.
Mais écoutez,
quand pour vous?
J'ai eu tellement de chance, parce que j'ai rencontré, dans les différents postes que mon mari a occupés, les gens les plus exceptionnels du monde. Nous sommes partis pour le Pakistan, et là j'ai eu une chance inouïe, c'est de devenir amie intime, ce qui est très rare pour l'ambassadeur et sa femme, de ce personnage fantastique qu'était Zulfikar Ali Bhutto. J'écris d'ailleurs dans le premier livre, L'âge du chant d'Asie d'Amérique et d'ailleurs, plusieurs textes sur Zulfikar Ali Bhutto, qui a eu cette vie absolument exceptionnelle et en même temps tronqué puisqu'il a été assassiné, je dois dire, puisqu'on ne le sait pas beaucoup, mais en fait, les gens qui le questionnaient l'ont tellement secoué parce qu'ils voulaient, avant de le condamner, lui faire avouer des fautes qu'il n'avait pas faites, qu'on lui a cassé le cou. Et donc, ils ont pendu, en fait, un cadavre. Et moi, j'appelle ça un assassinat. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un texte sur lui dans « Au pas de gravité », où je mets d'ailleurs qu'il a été assassiné. Voilà.
Justement, l'âge du chant d'Asie, d'Amérique et d'ailleurs. avec cette préface d'Edgar Faure, vous avez souhaité nous transmettre quoi dans cet ouvrage ?
Le monde avec sa splendeur, avec ses transes, avec ses vérités, ses outrances aussi. Et l'homme avec toute sa mesure, dans tous les sens, de tous les côtés, voilà. Et ça continue d'ailleurs dans Au pas de gravité et dans L'intimité du ciel, parce que ce qui m'intéresse essentiellement, c'est justement l'être humain. Voilà. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit moyen, c'est l'être humain. Je l'aime dans sa totalité, dans sa démesure, dans sa splendeur, dans son drame et dans quelquefois ses petitesses, mais petitesses très humaines.
On ne peut pas parler de refuge concernant votre poésie. C'est une poésie,
pas du tout.
Une poésie communication avant.
Absolument, oui, oui. Oh non, non, ce n'est pas du tout un refuge, non. Cela m'a toujours habité. Voilà. Et comme j'ai eu cette chance extraordinaire de voyager avec mon mari, de New York, au Pakistan, en Afrique du Sud, au Brésil, évidemment, j'ai rencontré des personnages extraordinaires et j'ai rencontré des lieux, j'ai vu des lieux fabuleux. Donc, j'ai eu envie de m'en imprégner et de les raconter et d'en tirer peut-être une sorte de leçon et surtout de faire participer les autres, de donner quelque chose. C'est ça qui est très important, de pouvoir donner.
Donner, et vous parlez de la participation du lecteur, celui qui va recevoir.
Voilà, il faut que le lecteur se sente concerné et que ces lieux et ces êtres qu'il n'a pas connus, eh bien, au fur et à mesure qu'il va lire le texte, il se sente en confiance chez lui. Il a envie de continuer, il a envie de connaître ces endroits, de connaître ces lieux, de connaître ces hommes et ces femmes.
On parle de votre poésie comme une poésie humaniste.
Peut-être. Mais vous savez, ce sont les autres, et c'est ce qu'ont écrit les autres sur moi, qui peuvent mieux dire que moi-même. C'est assez difficile de s'exprimer. Alors, aussi, il y a quelque chose pour moi qui est très, très important. C'est la musique, la sonorité et le rythme. La musique, j'ai toujours été vraiment occupée de musique. La musique fait partie de mon quotidien et je n'en joue pas moi-même. C'est extraordinaire parce que j'étais dans une famille où tout le monde jouait, chantait, etc. Moi, je chante faux. Mais en revanche, j'adore la musique. Et ce que je cherche dans le mot, c'est justement de traduire cette sonorité, cette mélodie extraordinaire. Je cherche à magnifier le mot pour qu'il apporte tout. Sa sonorité, son harmonie, sa musique, sa beauté, sa grandeur, son drame. Voilà. Et quand je travaille des poèmes, je travaille toujours en musique. Toujours, toujours.
Mais une fois que la musique est dans vos poèmes, vous allez encore plus loin en créant par exemple « Mythes et mémoires du monde ». Vous vous livrez à une véritable création de spectacle, de mise en scène de ces poésies.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas que moi qui m'intéresse. Lorsque j'ai monté ces spectacles avec Georges Descrières, évidemment, j'ai voulu mettre les grands poètes que j'aime. J'aime beaucoup Senghor, d'ailleurs, que j'ai aussi bien connu, et qui d'ailleurs m'a fait le plaisir extrême de publier, de me voir très nombreuses fois. Même une fois, il m'a donné un rendez-vous à 2h30 chez lui, dans son appartement de Paris. Il est arrivé avec une petite demi-heure de retard, donc nous avons commencé à 3h à parler. Je suis sortie de chez lui à 9h30. Nous avions complètement oublié le temps. Il parlait de lui, je parlais de moi. Et alors, après cela, d'ailleurs, cela m'a permis d'écrire un poème que j'ai écrit, qui s'appelle « L'irrémédiable aimé d'amante », qui était dans « L'âge du chant ». Je le dois totalement à Léopold Senghor. Et aussi, il m'a écrit un mot, manuscrit, en me disant son enthousiasme. Je lui avais donné, avant que soit publié L'âge du chant, je lui avais envoyé, c'est Edgar qui me l'avait fait connaître, bien sûr, me l'amenant un jour à déjeuner chez moi. Et il m'avait dit, mais tu devrais envoyer des poèmes à Léopold Senghor. Donc, Léopold Sédar Senghor m'a réécrit en me disant ce qu'il trouvait dans ma poésie, en me disant cette chose extraordinaire, que j'avais une voix très rare et totalement originale, et qu'il allait me faire le plaisir de publier dans sa revue éthiopique, qui couvre toute l'Afrique francophone, La nuit de Sulfikar Ali Bhutto, qui est dans L'âge du chant. Voilà.
Alors quand vous parlez d'Edgar, évidemment on comprend que c'est Edgar Faure, donc académicien et homme politique, mais bien autre chose dont vous allez justement nous révéler certaines facettes. Je voudrais seulement dire que M. Edgar Faure était né en 1908 et qu'il nous a quittés en 1988 et qu'il avait été élu en 1978 au fauteuil numéro 18. Il a succédé à André-François Poncet. Alors, on connaît évidemment sa carrière politique. Il a occupé tous les postes importants de la politique française durant 30 ans, de 1949 à 1979. Mais il était aussi important de savoir qu'il avait été chargé des services législatifs de la présidence du Comité français de la Libération, puis du gouvernement provisoire à Alger. Ça devait sûrement être très important pour lui. Après, il a été 5 fois ministre des Finances, 2 fois ministre des Affaires étrangères, 2 fois président du Conseil. Enfin bon, ça, c'est l'homme politique. Mais vous avez connu un homme passionné par d'autres sujets que la politique, et notamment la musique. On y revient.
Ah oui, la musique. Et attendez, je vais aussi ouvrir une parenthèse avant de parler de l'Edgar musicien. Je vais parler de quelque chose qu'on n'avait pas parlé dans ce volet, qui a occupé toute la fin, les dernières années de sa vie. C'est la philosophie. Je voudrais parler d'Edgar philosophe. Parce que réellement, c'est un côté du caractère d'Edgar que l'on connaît peu. Puisqu'il est entré peut-être réellement en philosophie, en recherche de philosophie, à peu près les 10 dernières années de sa vie.
Quels étaient ses philosophes préférés alors ?
Ah, mais évidemment, Karl Popper. Vous pouvez imaginer que ce qui était absolument merveilleux, c'est que quand il vous parlait de Karl Popper et qu'il expliquait Karl Popper, non seulement vous compreniez évidemment merveilleusement Karl Popper, mais vous vous disiez, c'est extraordinaire ce que je suis intelligente, moi. C'était le grand talent d'Edgar, c'est que il était tellement brillant, mais tellement joyeux et tellement simple également dans ses explications, que vous oubliez complètement que c'était lui le génie, c'était lui l'homme extraordinaire, et vous vous disiez, mais c'est fabuleux, non seulement je suis à la hauteur de cet homme-là et de son intelligence, mais voilà, je comprends tout, c'est merveilleux. Vous vous sentiez aussi, vous aussi, très très intelligente.
Et sans doute Rousseau aussi, puisqu'il a été le président du comité.
Il aimait beaucoup Rousseau, ce qui était aussi mon cas, j'avais une grande passion pour Rousseau. Évidemment, il ne pouvait pas ne pas passer également par Karl Marx, qui était quand même un personnage considérable, dont il réprouvait beaucoup de choses, mais il a quand même, c'était un philosophe politique et créateur quand même de systèmes qu'il reconnaissait avoir existé et avoir été très 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 important. Mais surtout, la démarche, le début de sa démarche philosophique a été lorsqu'il a découvert cet extraordinaire poème de Sumer qui compte à peu près 690 ou 98 vers et qui est toute l'histoire de l'humanité. Il a travaillé pendant 7 ans sur ces textes.
Et vous avez travaillé avec lui.
J'ai travaillé avec lui. Notamment, c'était donc des textes qui avaient été traduits en anglais, la langue des petites plaquettes que l'on avait découvert en 2 catégories, la fin au début, et ensuite on a retrouvé la première partie quelques années après. Mais comme c'était par des chercheurs qui travaillaient à l'université de Philadelphie, et notamment celui qui a fait la plus belle traduction qui s'appelait Sol Cohen et qui a vraiment fait une traduction d'une beauté extraordinaire. C'était évidemment dans une époque où tout ça était en anglais.
Et pourquoi Edgar Faure s'est passionné pour ce poème-là particulièrement ?
Alors attendez, je vais d'abord vous dire comment je suis entrée moi avec lui dans ces poèmes. Parce que, comme Edgar ne parlait pas très bien anglais, il le comprenait un peu, mais peut-être pas toutes les subtilités. Donc, il m'avait demandé de le lui mettre en français, Et surtout, ces plaquettes, évidemment, étaient avec des trous, puisqu'elles ont été retrouvées dans la terre, il manquait des grands passages. Or, moi, comme mon mari a été ambassadeur au Pakistan, nous avons vécu 4 ans là-bas, que comme nous étions un peu des nomades, nous avons voyagé absolument partout, et notamment, nous sommes rentrés 2 fois en voiture du Pakistan jusqu'en France, et en traversant toutes ces régions, partant de l'Afghanistan et toutes ces régions, notamment tout l'Irak,
la Mésopotamie,
la Mésopotamie. Voilà, exactement, la Mésopotamie. Et il faut dire que c'est extraordinaire, que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans toutes ces régions que nous avons traversées, la manière de vivre des hommes dans les villages n'a absolument pas changé. C'est extraordinaire de revoir la même... Quand je lisais ce poème d'Emerkar sur Sumer, et je me disais, mais c'est extraordinaire, c'est ce que j'ai vu à tel endroit, à tel endroit. Et donc, comme j'avais vu la manière dont vivaient les gens, les outils, tout ce qu'ils employaient, les lieux également, je pouvais remplir les vides. Alors Edgar était ravi, il me disait toujours, oh, mais tu es génial. Voilà, c'est comme ça que je suis entrée, moi, dans ce texte exceptionnel, qui est un texte qui traite de la rivalité qui se passe entre deux rois, le roi de la plaine qui s'appelle Enmerkar et le roi de la montagne qui s'appelle Ensukushirama, et qui se battent pour avoir les faveurs de la déesse. Alors, déesse totalement unique dans toute l'histoire de la littérature ou de la mythologie mondiale, c'est parce qu'elle a les deux pouvoirs. Elle est la déesse de l'amour et la déesse de la guerre. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir du plaisir. Sumer était extrêmement libre en la jouissance éclate à tous les pas. Il n'y a aucune connotation de péché, de quoi que ce soit. Et aussi le pouvoir de l'enfantement, bien sûr, mais le pouvoir de la mort, puisqu'elle est la déesse de la guerre. C'est à elle de décider si les hommes vont se battre ou s'entendre. Et ils finissent, après de nombreuses péripéties, par s'entendre. Et c'est la création donc de l'écriture, des relations, de la politique, du commerce, essentiel le commerce, et surtout la relation de l'homme avec la divinité.
Voilà. Alors, ce long travail sur Sumer,
je vais quand même passer quelque chose d'essentiel, c'est pour ça que je voulais arriver à cela, à cette déesse extraordinaire qui s'appelle Inanna Ishtar. Si Edgar a été vraiment amoureux d'une femme dans sa vie, c'est d'Inanna Ishtar, parce que réellement, elle représentait pour lui ce qui est absolument extraordinaire, parce que cet homme avait aussi une part de féminité en lui, et il aimait l'idée de pouvoir se soumettre à cette femme qui était en même temps la déesse de l'amour et la déesse de la guerre, qui pouvait ordonner et qui pouvait aimer.
Alors ma question, c'est aussi de vous demander, est-ce que ce travail sur Sumer avec Edgar Faure a inspiré l'un de vos poèmes qu'on trouve dans ce livre, justement ?
Ah, totalement. Je pense que je n'aurais jamais écrit Le piétinement de la voix, qui est certainement, je crois, un des poèmes dont je suis le plus fière, et qui a, je l'ai écrit totalement en m'inspirant cette marche des hommes que j'ai écrite. Ça s'appelle donc Le piétinement de la voix. Cela commence au début de Sumer. Cela passe avec ces hommes qui marchent, ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas, qui vont et qui marchent avec un refrain qui revient constamment. Cela passe évidemment par tous les lieux de la Mésopotamie, par les grands moments de la Mésopotamie, également par l'histoire des Kurdes, la première guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, et toujours cette espérance, cette espoir que l'homme va surmonter de tout cela et que rien, aucune misère, aucune foudre, aucune difficulté ne pourra entraver cette extraordinaire marche des hommes.
Revenons, si vous voulez bien, Marie-Edith Land, à Edgar Faure. Donc, vous nous avez présenté le philosophe, mais moi, je voulais aussi que vous parliez du musicien.
Alors, le musicien, Edgar était la musique même. D'ailleurs, dans sa jeunesse, une de ses sœurs était au conservatoire, musicienne, Henriette. Et lui, il avait une admiration énorme pour cela. Et un désir presque... C'est parce qu'il était tellement intelligent qu'il s'est dirigé vers autre chose. Mais il avait quand même ce sens extraordinaire de la musique et de la création musicale. Et d'ailleurs, il écrivait lui-même sa musique, il composait sa musique, il écrivait ses paroles. Et quand il venait chez moi, il se mettait au piano, il fredonnait, tout le monde était là en extase devant lui. Il chantait un peu faux, mais la mélodie était tellement ravissante. Il avait un sens tout à fait étonnant de la mélodie. La musique était essentielle dans sa vie, c'était très important.
A-t-il mis en musique quelques-uns de vos poèmes ?
Non, il n'a pas mis en musique quelques-uns de mes poèmes, mais c'est moi au contraire qui ai monté plusieurs spectacles avec des poèmes de lui, chantés par Dominique Guillot, joués par Yvan Cassard au piano, et d'après sa musique et ses paroles.
C'était une belle soirée à la Fondation Saint-Gé-Polignac, en présence de Monsieur Édouard Bonnefous, qui s'en occupait à l'époque, je suppose.
Merveilleusement bien d'ailleurs, et qui était un grand ami à moi que j'aimais infiniment.
Marie-Edith Land, êtes-vous en préparation de spectacles à partir de vos poésies ou en écriture en ce moment ?
Non, je ne suis pas en préparation de spectacles parce que ça représente énormément de travail et de temps et que je ne peux pas toujours demander quand même à mon merveilleux ami Régis Pasquier qui m'avait fait ce plaisir extraordinaire d'accompagner deux de mes poèmes, deux compositions qu'il a faites. Je dois dire que j'ai passé des moments avec lui fantastiques parce que entendre Régis me dire qu'il aimait mes mots et que mes mots et leur sonorité l'inspiraient, c'est quand même assez exceptionnel. Mais en ce moment, je suis partie vers deux projets d'écriture. Le premier est que j'avais commencé il y a des années une sorte de livre de mémoire. Comme j'écris, c'est-à-dire extrêmement poétique, ça ne peut pas être, ce ne sont pas des rapports et ce ne sont pas une histoire romancée. C'est mon histoire de la jeune femme que j'étais quand j'ai commencé cette carrière diplomatique à la suite de mon mari, en accompagnant mon mari, que j'ai créé un certain nombre de choses, que j'ai rencontré ces êtres fabuleux tout au long de ma vie et des différents voyages ou postes dans lesquels j'ai suivi et secondé mon mari. Donc, j'avais commencé il y a des années et maintenant, je le reprends. Je vais tâcher de le terminer. Ça s'appelle « Mon histoire farouche » et j'espère arriver à le continuer. Et puis alors, mon ami éditeur des éditions Michel de Maulle m'a fait une commande également. Il a lancé avec un autre ami écrivain et ancien ambassadeur de France qui s'appelle Patrick Imos et qui lui-même écrivain et qui publie à la fois chez Thierry Delacroix, aux éditions Michel de Maulle, et chez De Fallois également. Ils ont eu l'idée de créer une collection qui s'appellerait « Je me souviens d'eux », petit livre de 100 à 120 pages, où une personne raconterait une rencontre extraordinaire et un moment de sa vie avec cette personne extraordinaire. Bon, moi j'ai eu le bonheur de rencontrer le Dalaï Lama, quand il n'était pas encore le prix Nobel, j'étais la seule personne à Paris, pas la seule, puisque Daniel Mitterrand aussi l'a reçu à ce moment-là. Je l'ai eu à déjeuner chez moi. Nous avons décidé que nous allions faire... Je travaillais à cette époque-là, c'était après la mort d'Edgar. Je travaillais pour Alain Carignon. Je m'occupais de faire les discours un peu littéraires et poétiques d'Alain Carignon. Et nous avions décidé, d'ailleurs Alain Carignon était là à ce déjeuner, j'avais connu Alain Carignon par Edgar, parce qu'Edgar avait une grande affection pour Alain Carignon. Il l'aimait un peu comme un fils, comme un dauphin, et il y avait cette vérité extraordinaire, c'est que Alain Carignon était extrêmement gaulliste vraiment dans les tripes. Et Edgar aimait beaucoup ça, parce qu'il avait une admiration énorme pour le général de Gaulle. Donc, lorsque Edgar est mort et que, par la force des choses, j'ai quitté le bicentenaire où je travaillais avec lui, j'ai travaillé pour Alain Carignon pendant 18 mois. Et évidemment, au cours de ce déjeuner, j'avais invité, puisque je travaillais avec Alain, je l'ai invité, lui, à ce déjeuner assez exceptionnel, parce que j'ai quand même eu 20 personnes chez moi, avec le Dalaï Lama, en toute intimité. Nous avons donc monté, au cours de ce déjeuner, un projet de partir avec moi, avec toute une équipe que j'allais composer, vivre pendant 3 semaines à 1 mois à Dharamsala, afin de mettre Grenoble à l'heure du Tibet. Donc, nous sommes partis avec toute une équipe à Dharamsala, où j'ai vécu là, où j'ai connu cette femme extraordinaire qui est la sœur du Dalaï Lama, qui s'appelle Pemala. J'ai d'ailleurs un texte dans « Au pas de gravité » sur Pemala. Et je dois dire qu'il m'est arrivé quelque chose de fantastique. C'est que j'ai reçu par le Dalaï Lama en tête-à-tête dans son palais, avec uniquement moi et lui, j'ai eu l'extraordinaire émotion de le faire pleurer d'émotion. Et c'est ce que je vais raconter. Pourquoi et comment j'ai fait pleurer en face de moi cet homme exceptionnel dans cette énormité de sa pièce. Bon, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut que je parte donc du début, que je passe par l'éditeur à cette époque-là du Dalaï Lama et de Claude Levinson, mon ami Laurent Kissel. Il faut que je parle d'Alain Carignon, il faut que je parle de notre mission, il faut que je parle de tout ce que j'ai découvert à Dharamsala, il faut que je parle de cette philosophie extraordinaire, de Pemala, des moments exceptionnels qu'elle m'a fait vivre, et il faut que je raconte le Dalaï Lama et son moment d'émotion et pourquoi il a pleuré d'émotion, me faisant cette joie absolument extraordinaire, au point qu'il était assis sur un siège assez loin de moi. Il a bondi, il m'a poussé pour se mettre à côté de moi. Et alors qu'on ne touche jamais sa sainteté, il m'a saisi tellement il était ému, et en me disant pourquoi il était ému et combien il me remerciait. Voilà, c'est un moment exceptionnel.
On vous lira avec grande attention et avec grand plaisir, certainement.
Pour terminer cette émission, Marie-Edith Land, peut-être une confidence pour les éditeurs de Canal Academy, votre définition de la poésie et votre façon de l'appréhender. Est-ce le carnet toujours dans la poche, à portée de main, ou tout se passe comment ?
Non. Je n'ai jamais le carnet dans la poche à portée de main. Je pense à un thème et il faut que je trouve sur ce thème le rythme. Et je vais le trouver uniquement en écoutant de la musique. Lorsque j'ai trouvé le thème, le titre du poème et le rythme, c'est fini. Alors je mettrai peut-être 10 ans comme certains de mes poèmes. Mon poème de l'ombre éclairée, j'ai mis 10 ans. Les enfants de la grâce et du moment, j'ai mis 10 ans aussi à l'écrire. Et quelquefois, bon, c'était d'ailleurs extrêmement prétentieux de vouloir écrire ce poème d'amour et qu'il soit en même temps très pur, très sensuel et très pur. C'est pour ça que c'était très très difficile que j'ai mis 10 ans. Mais une fois que j'ai trouvé le rythme, cela vient. Même si je ne suis pas contente et que je vais attendre et je vais laisser respirer, cela vient toujours. En revanche, pour les tout petits poèmes, parce que j'en ai aussi des très courts, cela vient comme ça, en un éclair, et ça je corrige assez peu. Cela vient facilement en un éclair. Alors, une définition de la poésie, oh, ça serait très prétentieux de dire, pour moi, c'est la vie. La poésie, c'est la vie. La poésie, c'est l'élévation. C'est voir les choses complètement de l'intérieur. Et cette intérieur, cette intériorité des choses et des êtres, pouvoir recevoir d'abord en soi et pouvoir le transcrire et le donner aux autres en mots, comme disait Edgar, en mots sonores et ondulatoires.
Marie-Edith Land, merci.
Merci d'avoir participé à cette émission sur Canal Academy et ainsi d'avoir échangé ses réflexions et souvenirs avec nos auditeurs.